Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous mensuel Autour du Livre. Un rendez-vous donc tous les deuxièmes mercredis du mois et en rediffusion le quatrième mercredi de 20h à 21h. Alors ce mois de juin, trois auteurs participent à cette émission. Brigitte Bangean, Christine Brunet et Lue Aubert. Et je vais, sans plus tarder, laisser la parole à cette première invitée, Brigitte Bangean. Bonjour.
Bonjour.
Alors Brigitte, vous êtes de Bédouin.
Oui, c'est ça. Oui, exactement.
Vous habitez depuis combien de temps sur Bédouin?
Plus de 30 ans. 33 même.
Vous écrivez depuis longtemps, on vient d'en parler là. Ça veut dire quoi depuis longtemps? Depuis combien de temps?
Je pense que j'ai toujours plutôt écrit. Même enfant, je partais acheter le pain, je faisais un roman sur la table à ma maman pour lui signaler que je partais faire une course. Enfin bon, j'ai toujours aimé écrire et un peu retracer, enfin garder un journal intime très longtemps.
Et à quel moment vous est venue l'envie d'éditer un de vos ouvrages? Quel a été cet ouvrage?
L'édition à proprement parler, c'est assez récent. Au départ, le support était plutôt sur Internet pour une association sportive qui m'a ouvert quand même les portes de l'écrit. Avec des rubriques concernant les voyages. Et puis, l'écriture s'est développée par la suite.
Alors, vous avez écrit combien de livres, de carnets de voyages? Vous en avez écrit plusieurs, hein? Vous avez fait plusieurs voyages?
Oui, des voyages, oui, beaucoup. Beaucoup, oui. Des carnets de voyages, en fait, sur le site donc, qui est visible sur Internet de Sud Raid Aventure. De nombreux carnets sont écrits de ma main sur de multiples pays, l'Europe de l'Est, la Tunisie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne, des rencontres en France aussi. Voilà, mais beaucoup de pays quand même où Sud Raid Aventure est allé poser ses crampons parce qu'on est souvent donc en 4x4. Et puis, donc ça, c'était le départ des publications. Et puis, à l'occasion, en 2014, à l'occasion des 10 ans du Raid Passion Désert, j'ai monté un projet d'un album écrit et illustré de photos pour les 10 ans de ce Raid. Donc, pour Sud Raid Aventure, ça a été ma première réalisation écrite papier. Et puis ensuite, des carnets de route pour les années suivantes, jusqu'en 2017.
Alors là, vous avez donc écrit un livre qui se compose de nouvelles, « Les pensées de ma plume ». Alors, aux éditions
C'est une auto-édition, mais aidée par M. Tison de Auxilivre. Donc c'est par connaissance que je suis arrivée vers ce monsieur qui m'a aidée, soutenue jusqu'à la réalisation finale, qui m'a aidée pour la mise en page, pour la photo de couverture, parce que j'avais des idées assez précises. Je voulais qu'apparaisse en filigrane le Mont Ventoux, puisqu'il y a une des nouvelles dont l'action se passe vraiment sur le Mont Ventoux. Voilà, des petites choses comme ça. Donc ce monsieur Tison m'a aidée. Et puis le livre a vu le jour grâce à Auxilivre.
Donc vous dites que dans Les pensées de ma plume, donc dans cet ouvrage, il y a une des nouvelles où vous parlez plus particulièrement du Ventoux.
Oui, il s'agit de Le sourire de Lucienne. C'est une nouvelle très, très riche sur le plan sentimental et affectif. Déjà parce qu'au départ, l'inspiration initiale est liée à une relation d'amitié que j'ai avec un couple de personnes âgées. Et j'ai écrit sur eux, en fait, sans que ce soit vraiment eux. L'inspiration est née de notre amitié. Et j'ai décrit un peu ce voyage, cette montée au Mont Ventoux, qu'on découvre petit à petit et que le lecteur fait en leur compagnie jusqu'au bout. Jusqu'au sommet, en fait.
Jusqu'au sommet du Ventoux. Le sourire de Lucienne. Pour nous laisser du temps dans l'éventualité que ce soit réellement le bonjour, ce matin, avant de quitter ma chambre, j'avais laissé un mot sur la table. « Ne vous inquiétez pas, je l'emmène à Fontaine de Vaucluse. » J'avais déjà repéré que le minibus, réservé aux excursions, restait garé tout près de la sortie de secours. Chaque lundi, Isabelle conduisait le véhicule et emmenait un petit groupe dont je faisais souvent partie, constitué de 4 ou 5 personnes parmi les plus valides pour se rendre au marché hebdomadaire. Je me sentais prêt. Lucienne était en forme, si on peut dire, et la direction avait autorisé sa sortie par cette belle matinée au ciel dégagé. Le jour idéal, me dis-je. Discrètement, j'avais emporté un gros gilet supplémentaire pour qu'elle n'ait pas froid. Et je m'étais moi-même habillée en prévision de la chute de 15 degrés à laquelle je nous destinais. Le tour au marché n'avait pas été trop long. Et le convoi, qui avait péniblement déambulé en clopinant dans les ruelles du village, fut rapidement de retour. Après s'être garé, Isabelle prit par le bras Madame Dumont et Mademoiselle Faure pour les raccompagner. Et je poussai l'ironie jusqu'à lui préciser de prendre son temps pour les installer dans leurs chambres respectives. Lucienne et moi pouvions attendre tranquillement. Les clés étaient restées sur le contact. Alors, je n'ai pas hésité. J'ai su que c'était le bon moment et l'envie, soudain, me prit d'accomplir ce que chaque jour je me promettais de faire. Je passai au volant et démarrai doucement le minibus, conscient que les premières minutes seraient décisives. Comme un cadeau du ciel, un camion de livraison bloquait l'entrée principale du parking et les véhicules du personnel. J'ai donc pu emprunter discrètement la sortie de secours, celle qui débouche directement sur la route de Malocène. Je m'efforçais d'apporter le maximum de concentration à chacun de mes gestes. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas conduit. D'un coup d'œil rapide, je constatais que Lucienne somnolait paisiblement, ce qui me rendait la tâche plus facile. Et je souris en réalisant qu'il n'y a pas que le vélo qui ne s'oublie pas. Je me sentais plutôt à l'aise, malgré le gabarit imposant du minibus, et je remerciais intérieurement tous ces moments d'observation minutieuse que j'avais accumulés stratégiquement à chaque sortie. Je passai devant la place des frères Provane et le terrain de boules, puis je franchis le rond-point encore bien encombré de touristes, avant de m'engager enfin sur la départementale 974, la route du Mont Ventoux. Je devais absolument dépasser la bifurcation à 2 kilomètres avant qu'il ne soit à mes trousses, car dès que notre évasion serait constatée, c'est par là qu'ils iraient nous chercher, vers la route de Carpentras, en direction de Fontaine de Vaucluse. Lorsque nous avons laissé la route de Flassan sur la droite, au carrefour du Galinier, j'ai su qu'une première étape était gagnée. Bien sûr, nous étions venus quelquefois en balade au hameau des Baux, ou de Sainte-Colombe, ou même jusqu'au fameux virage de Saint-Estève. Mais il m'en fallait plus. Pendant que nous attaquions la montée, je laissais les souvenirs affluer et je m'imbibais des émotions restituées. Les sensations étaient tenaces, tactiles ou sensorielles, mais en tout cas intactes. Gravées en moi, cachées dans les replis et les circonvolutions de mon cerveau, par chance préservée, mais toujours à fleur de peau. Je tournai la tête vers Lucienne. Elle ne dormait plus et semblait regarder par la fenêtre. Je guettais en vain une réaction de sa part. Pourtant, elle ne pouvait pas ne pas se rappeler. Cette route, forcément, avait laissé une empreinte quelque part, j'en étais certain. Alors, tant que je n'avais pas besoin de changer de vitesse, je posai ma main sur sa cuisse, comme elle l'avait fait tant de fois. Mais ce geste de tendresse n'a pas déclenché de réaction. Elle n'a pas eu de mouvement de recul, et c'était déjà bien. La peur que je voyais si souvent s'emparer de son regard, l'affolement même que le moindre contact pouvait déclencher, me tordait le ventre, et le simple fait d'accepter ma main sur sa cuisse m'inonda de joie. Un instant, j'ai pensé faire un arrêt. Mais non, pas ici. S'ils nous rattrapaient, on serait forcé de rentrer et tout serait gâché. Il fallait continuer. Aller jusqu'au bout. Donc le sourire de Lucienne, une nouvelle qui a gagné le premier prix du concours Provence Poésie 2016.
Je suis très fière de ce résultat. C'était intéressant de participer à ce concours, voilà. Et puis valorisant d'obtenir le premier prix. Ça a permis aussi une publication de cette nouvelle au cœur d'un recueil collectif et puis d'une seconde édition d'un autre recueil avec d'autres textes aussi sur un recueil collectif de Provence Poésie.
Est-ce que vous avez actuellement d'autres projets d'écriture, des nouvelles ou toute autre chose ?
Oui, bien sûr, des projets toujours en cours, de l'écriture toujours, un roman qui est en préparation, et puis des nouvelles aussi, parce que la nouvelle c'est une activité très intéressante en tant qu'auteur, parce que ça permet de vite entrer dans le sujet, d'élaborer des personnages et de monter une histoire rapide qui va être lue rapidement aussi. Oui. De faire monter l'intensité avec une chute, si possible, intéressante.
Par exemple, dans Les pensées de ma plume, vous avez à peu près 12 nouvelles, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et deux poèmes aussi, de poèmes libres, on peut dire, parce que c'est pas de la poésie classique comme on l'entend, mais voilà, ce sont deux poèmes sur des sujets qui me sont chers, comme l'écriture, donc l'écriture au départ. Et puis un autre sur le Sahara, pour les voyages, et le Sahara qui m'a inspiré beaucoup d'écrits.
Alors une nouvelle, ça fait à peu près combien de pages ? 5, 10 pages ?
Oui, ça dépend, on peut s'amuser sur ce qu'on appelle la micro-nouvelle, c'est un peu un challenge à remporter, enfin à écrire sur une page ou deux pages, il faut que l'action se déroule assez rapidement. Et puis ensuite, on peut aussi étendre une nouvelle jusqu'à une dizaine de pages, ça c'est différent, on peut amener le lecteur plus lentement sur les idées.
Et est-ce que vos ateliers d'écriture dans lesquels vous participez sur Bédouin, est-ce que ces ateliers d'écriture vous aident un petit peu dans votre évolution au niveau écriture ?
Oui, c'est sûr que l'atelier d'écriture c'est une ouverture d'esprit, on réalise beaucoup de jeux d'écriture. De travail sur l'écrit en groupe aussi, en panachant les écrits. Et l'écriture à plusieurs est toujours enrichissante parce que les idées des uns se modifient, s'enrichissent les idées des autres. Et c'est un partage et on s'aperçoit que l'évolution est intéressante pour tout le monde.
Donc par exemple, dans ces ateliers d'écriture, c'est des ateliers qui s'organisent une fois par semaine, une fois par mois. Comment ça se passe ?
Au départ, donc c'est un atelier qui a été monté par la MJC de Bédouin. Et donc l'animatrice est Bénédicte Blanc, qui a monté une petite équipe donc qui s'est consolidée au fil des années. Et donc ça nous permet de nous rencontrer a priori, normalement une fois par mois, quelques fois un peu plus. Et puis en fin d'année, on essaie de programmer une journée entière d'écriture. Voilà, on est tous passionnés et ça permet beaucoup d'échanges et d'évolution.
Est-ce que prochainement vous avez des événements sur lesquels vous allez vous produire ou pas ?
Oui, la semaine dernière déjà on était au Salon du Livre à Saint-Saturnin-les-Aptes. C'était une rencontre très sympa. Et puis dans le futur, donc il y a le Salon du Livre à Sarrian qui est un projet qui est en train d'être mis en place par la mairie de Sarrian en partenariat avec l'espace culturel de Centre Leclerc de Carpentras. Et puis des projets aussi pour des dédicaces à l'occasion du Festival d'Avignon. Donc là, avec le groupe des écrivains de Provence, on se réunit, on doit se rencontrer pour promouvoir nos livres en groupe.
Et pour le Festival d'Avignon, donc c'est toute la période du festival, vous avez des dates déjà ou pas ?
Donc c'est surtout sur les trois dimanches du festival, le 9, le 16 et le 23 juillet, où ces rencontres se mettent en place.
Merci Brigitte Bangean et puis écoutez, bonne continuation dans vos écritures.
Merci beaucoup et merci de votre écoute, bonne lecture de votre côté.
Là, derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur ou seulement là?
Nous venons d'écouter « Derrière les mots », un titre extrait du premier album commun Alain Souchon et Laurent Voulzy. La date donc de sortie de cet album, c'est en novembre 2014. Et toutes les chansons ont été écrites et composées par les deux interprètes. Une deuxième invitée donc pour cette émission, autour du livre, Christine Brunet. Christine Brunet, donc, que j'ai rencontrée à l'espace culturel de Carpentras. Nous allons, sans plus tarder, écouter donc cette interview.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Christine Brunet, bonjour.
Bonjour.
Alors Christine, vous venez de Marseille, oui. Originaire d'Aubagne. Alors vous êtes administratrice d'édition Chloé Delis, rédactrice en chef de la revue littéraire Les Petits Papiers de Chloé, présentatrice d'Actu TV, pour donc là c'est une émission culturelle d'1h30, mensuelle, une émission mensuelle. Et vous êtes auteur de romans, polars, thrillers.
Oui, plutôt thriller, oui. Plutôt thriller.
Alors, vous en êtes à votre 8e livre, qui s'intitule « Vénus en Ré ». Donc, vous pouvez nous dire un petit peu quand est-ce que l'écriture, pour vous, quand est-ce que ça a commencé, cette idée, comment est-ce que ça a germé en vous, cette idée de commencer à écrire? Et est-ce que vous avez commencé à écrire des polars, justement, ou des thrillers?
Alors, j'ai commencé vraiment à écrire lorsque j'habitais à Preston. Et c'était plutôt du ASF, puisque pour moi, le roman policier, ben c'était une évasion quelconque, mais c'était pas forcément quelque chose d'imaginatif. Et puis, ben, j'ai écrit beaucoup de SF. Bon, il fait pas très beau à Preston, on sort pas beaucoup, voilà.
L'occasion idéale.
Ouais, exactement, et donc j'ai écrit beaucoup. Lorsque je suis revenue en France, au départ je voulais pas tenter la publication, puis j'ai envoyé un de mes bouquins à un éditeur qui à l'époque démarrait, et puis maintenant qui est un peu plus important, et qui m'a dit, 13 tomes, je peux pas te les prendre, je suis désolée. Mais en revanche, ben tu mets des intrigues qui sont pas mal, il y a... À l'époque, il n'y avait pas de femme écrivain de thriller. Alors, il me dit, mais pourquoi tu essaies pas dans ce style-là? Alors, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai commencé à écrire donc Nid de Vipère. Et puis, dans la foulée, j'ai écrit Dégâts collatéraux. J'ai envoyé le premier en Belgique, chez Chloé Delis. Et le second en France, chez De Pierre Gore. Et puis, j'ai eu la chance d'être prise en même temps chez les deux éditeurs. Donc, voilà.
Vous avez continué donc sur ce chemin de l'écriture. Oui. Donc avec ce dernier livre qui est là aujourd'hui, donc qui s'appelle Vénus en Ré. Alors on est toujours dans le thriller, le polar.
Alors c'est du thriller et depuis Convergence en fait j'ai de nouveaux héros. Mon héroïne est une légiste, un petit peu atypique. Voilà, elle a une double vie. Elle est dans Vénus en Ré, elle reprend son travail pour tenter de découvrir qui a assassiné la fille de son ancien patron. Voilà.
Comment vous vient l'inspiration pour écrire des livres dans ce style-là?
Alors là, c'est, je sais pas, c'est quelque chose que je vois à la télé, par exemple une affaire, ou alors quand je commence à me documenter, je me dis tiens, ça serait intéressant de travailler sur ce sujet. Voilà, s'il n'y a pas, il faut le point de départ, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué à avoir. Puis après, ben voilà, ça marche, et puis pas de problème.
Oui, quand c'est parti là.
Oui, là, il n'y a pas de souci.
Alors, votre dernier livre contient à peu près combien de pages?
Oh, il n'est pas très épais. Enfin, je fais en fait, je ne mets pas plus de pages qu'il n'en faut. Je suis capable d'écrire 500, voire 600 pages avec Beaucarmenteur, et d'en écrire pour le tout dernier. 256, pardon. Vous voyez, donc celui-là est beaucoup plus court, mais parce que l'enquête s'y prête.
Voilà.
Hein. C'est pas la peine de faire de la page pour faire de la page. Il faut que le lecteur puisse lire le bouquin à toute allure, n'ait jamais à le lâcher et surtout n'ait pas à zapper des pans entiers de texte qui ne servent à rien. Un roman policier, ça, voilà, il faut qu'on soit accroché.
Alors j'ai l'avis d'une lectrice justement qui a lu un de vos livres, alors je pense que c'est probablement le dernier, un très bon thriller, avec des personnages hauts en couleur, une enquête complexe. Alors elle dit de vous, une auteure particulièrement douée pour l'écriture et les énigmes. En plus, la fin laisse présager une suite, un livre à lire de toute urgence. Alors justement, est-ce qu'il va y avoir une suite après Vénus en Ré, donc qui est votre 8e ouvrage?
Alors oui, mais ça sera pas pour le prochain. C'est-à-dire que le prochain, je reprends mes anciens héros, Axel de Montfermy et Sheridan, et ça va s'appeler HX13. Il paraît au mois tout début octobre, le 1er octobre. Et ça sera un thriller, certes, mais cette fois-ci SF. Et la suite, entre guillemets, ça sera pas une suite, parce que chaque enquête peut être lue de façon indépendante. Mais on peut dire que c'est vrai, l'épilogue présage une suite, du moins pour mon héroïne. Et ça s'appellera Gwen Adieu, et ça paraîtra, si mon éditeur est d'accord, en 2018. Parce qu'en fait, à chaque fois, bien sûr, il faut que je lui présente le texte, et qu'il soit d'accord, et puis voilà.
Quelle est votre définition, vous, du thriller, justement? Parce qu'alors, on en a un petit peu tous les échos, et j'aurais aimé avoir la vôtre. Dans vos livres, donc, qu'est-ce que vous, vous faites passer dans le thriller?
Alors, pour moi, un thriller, c'est pas gore ou sanglant. C'est un rythme rapide, c'est quelque chose qui se dit en apnée, qui peut vous faire voyager avec des odeurs, des impressions, des images fortes. C'est documenté. Ça peut être très noir, mais mettre du sang pour faire frissonner les lecteurs, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez tout aussi bien tenir votre lecteur, lui faire, à la limite, faire en sorte qu'il ressente la frayeur des héros sans mettre du sang, de l'hémoglobine à toutes les pages, faire en sorte que, ou dire que le gars se dévore ou je sais pas quoi, mais quel intérêt? Pour moi, voilà, un roman policier, c'est pas ça. Il faut se laver la tête, mais pas avec des flots de sang, ça sert à rien, quoi.
On en a peut-être parlé un petit peu au début. Qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie d'écrire ce genre d'écriture?
Ben, en fait, lorsque je lis, en fait, je suis une lectrice, on va dire, quasiment compulsive. C'est-à-dire que je lis énormément, très peu de romans policiers actuellement, parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de départ. Il est trop facile d'aller copier le point de départ du copain et de se dire, ben oui, ça, c'est évident, oh, ça serait pas mal, mais non, non, il faut garder sa spécificité. En tant que lectrice, moi, ce que je cherche dans un livre, mais quel qu'il soit, ça peut être même de la poésie, il faut une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui accroche, qui vous amène quelque part. Et pour moi, en tant que là, auteur, le thriller, c'est quelque chose qui m'entraîne, moi aussi, dans cette espèce d'écriture rapide, vous savez, je vis ce que vivent mes héros, et voilà, c'est ce que je recherche dans ce genre d'écriture, et ce genre de lecture. Voilà. Un auteur vit avec ses héros, tout le temps. Et en fait, il ressent ce qu'il ressent. Et le thriller peut justement faire passer ça, hein, c'est-à-dire ces espèces de sensations qu'a l'auteur lorsqu'il écrit. Il va pouvoir le transmettre au lecteur, ce qui n'est pas forcément vrai, à mon humble avis, dans des romans, ce qu'on appelle l'écriture blanche, ou dans la bidlite, ou des machins comme ça. Non, voilà.
Et ça ne doit pas être toujours facile de quitter justement ces personnages. Bon, il vous faut du temps pour écrire, mais vous ne faites pas que ça. Vous n'êtes pas qu'auteur, pas qu'écrivaine. Donc, comment est-ce que vous faites pour justement vous arrêter à un moment donné, alors qu'il y a encore plein de choses qui sont là? Comment ça se passe, cette partie-là?
Eh bien, en fait, j'écris pas sur commande. C'est-à-dire que lorsque j'écris, c'est que c'est un vrai besoin. Oui, voilà. Donc, en dehors de ça, ben, je fais ce que je dois faire pour mes auteurs Chloé Delisle, pour tout ça. Mais lorsque j'ai un vrai besoin d'écrire, je pose tout, je lâche tout et j'écris. Et j'écris le nez dans le guidon, j'écris. Et puis c'est terminé. Scène que j'ai imaginée est terminée. Les dialogues que j'ai imaginés, qui sont dans ma tête, sont sur le papier. Et alors c'est bon. Et je peux continuer à faire travailler mon imagination pour la suite et reprendre mes autres activités.
D'accord. Alors justement, en parlant de vos autres activités, donc vous en avez une particulièrement qui donc vous occupez donc de Actu TV, une émission culturelle, littéraire aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette partie-là de votre vie?
Actu TV est partie d'une idée simple, c'est qu'en Belgique, puisque c'est une émission belge, la culture n'était pas privilégiée à la télévision, et à la radio. Et donc, et surtout, ces émissions existaient, elle privilégiait des gens connus. Et donc, en Belgique, c'est une espèce de terroir bouillonnant de talents de toutes sortes. Et on s'est dit, mais mince, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire connaître ces autres plumes, on va dire, quasiment alternatives, qui ont du talent, mais qui ne trouvent pas, si vous voulez, d'écho dans la presse normale. Et donc, on a commencé dans un petit local. Et puis maintenant, on a énormément d'auditeurs qui sont présents et qui repodcastent. Et voilà.
Il y a combien de temps, justement, que vous avez commencé ?
Alors, moi, j'ai commencé il y a 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et Actu TV, ça fait 10 ans. Voilà. Donc, et à chaque fois, on innove. On est passé en Ultra HD. On innove aussi. On fait des reportages en France maintenant. Ça peut se passer un peu partout. Mmh. On a des chanteurs, on a des peintres, on a des auteurs, on a de tout. Voilà. Il faut montrer qu'il y a des gens qui ont un univers, qui sont talentueux et malheureusement qui ne trouvent pas d'écho ailleurs que sur des chaînes alternatives comme la nôtre.
Alors donc c'est une émission qui dure 1h30 et une émission qui est mensuelle.
Voilà, c'est ça. Parce que même si nous avons plein de reporters un peu partout, nous sommes des bénévoles, donc une émission de télé, ça se monte, il faut aller en reportage et il faut... Alors, aujourd'hui, on n'a plus à trouver les reportages. Ce sont les gens qui viennent nous demander est-ce que vous pouvez pas, etc. Au départ, c'était pas le cas. Mais ça demande énormément de travail. Donc moi, je la présente et puis de temps à autre, bien sûr, je pars en reportage lorsque c'est en France et lorsque je peux me déplacer.
Alors donc un lien pour justement si on veut écouter cette émission.
Bien donc c'est une émission, une web TV, on la trouve partout sur sur le net et puis notamment sur actu-tv.net.
Et alors vous Christine, comment est-ce qu'on vous retrouve si on veut justement se procurer vos ouvrages?
Alors mes ouvrages sont partout, référencés partout, donc vous pouvez les commander s'ils sont pas sur les étals. Néanmoins, pour ceux qui sont de Chloé Delis, comme Chloé Delis est un éditeur, on va dire, associatif, un peu particulier, nous n'allons pas voir ni Amazon ni la FNAC, puisque ils nous demandent une remise un peu trop importante, parce que tout est reversé aux auteurs, puisque nous sommes bénévoles, en fait, nous ne faisons pas de bénéfices. Mais en revanche, nous sommes présents chez De Citre, Le Furet du Nord, Chapitre.com, etc. Voilà. Et puis en librairie, puisque nous sommes référencés également en librairie, bien sûr. C'est du compte d'édition, c'est pas du compte d'auteur, on est bien d'accord.
Et donc si certains lecteurs souhaiteraient échanger quelques mots avec l'auteur, donc vous avez une page Facebook, un site?
Oui, j'ai voilà. Tout. Donc j'ai un site, c'est christine-brunet.com, j'ai Facebook, Christine Brunet, auteur de thriller. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un blog, aloïs.me, j'ai un mail, voilà.
On peut vous retrouver très facilement.
Voilà. Je suis partout sur le net.
Merci Christine Brunet, merci. Merci.
Je vous remercie, à vous surtout.
Si tu penses une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans la nuit. D'ici, dans la vie. D'ici, tu rumines au sextant, tu te crois indigène. Mais tout est éboulé, fil chanté dans la plaine. Tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel. Autant que tout t'emporte, rien ne tient le contre-courant dans la vie. D'ici, dans la vie. Tu connais le love. Encombratrice et folle sous les cases bleues. Tu cherches vent à dos au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les os dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici, le cœur et le cerveau, petit alu de Lorraine. Corolle de lumière, giroflée des moraines. Ventricule du cœur qui crache dans l'artère. Ma petite marmotte ne va pas t'engourdir tout l'hiver dans la nuit. D'ici, dans la vie.
Écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Jean-Louis Murat nous a interprété Franche Lynx, un titre donc tiré de son dernier album Morituri, un album qui est sorti en avril 2016. Quelques petites annonces autour du livre en ce mois de juin-juillet. Donc à l'espace culturel de Carpentras, donc boulevard Naquet, le 17 juin de 10h à 18h, une auteure, Caroline Ribe-Ruescas, sera en séance de dédicace pour son roman fantastique Ogamis T1. Le 24 juin, de 10h à 18h, Bertrand Boileau viendra dédicacer son roman policier Le cimetière des veaux sous la mer. Le mercredi 21 juin à 18h30, c'est avec l'association Bonheur de Lecture que nous allons partager donc une lecture de Marcel Pagnol, Marcel et Isabelle, Le temps des secrets. Donc une lecture qui va se réaliser à Jonquière, à l'espace socio-culturel. Une lecture avec Régis Rossotto et Laure Bruno, accompagnée à la musique par Jean Cohen au flûte. Le 15 juillet, un salon du livre à Sarian, organisé par l'espace culturel Leclerc de Carpentras. Une cinquantaine d'auteurs venant de la région PACA et alentour. Donc venez nombreux à ce premier rendez-vous sur Sarian. Le 22 juillet, une rencontre dédicace avec Marc Lamola. Il viendra donc nous présenter ses romans policiers. Et ce même jour, donc le 22 juillet, un salon du livre et des arts en centre-ville de Cavaillon, organisé par l'association Agoraya et l'association des commerçants de la ville de Cavaillon. Et c'est de 10h à 19h. Dernier invité de cette émission, Lou Aubert. Lou Aubert qui va nous parler mystère. Le héros de ses romans, c'est Erwan. Étudiant en histoire de l'art, à l'écoute des traditions et croyances régionales, qui a toujours été intéressé par le surnaturel. Lors de la rentrée universitaire, le jeune homme témoin privilégié des apparitions et disparitions répétées d'une mystérieuse jeune femme sur le campus de Quimper va rapidement être rattrapé par sa passion pour l'occulte, bien malgré lui. Qui est cette étrange jeune fille? Qu'attend-elle de lui? Pour Erwan et ses amis, une enquête peu ordinaire et périlleuse commence alors, où les premières tentatives d'explication rationnelle se heurtent très vite aux limites de l'entendement et ouvrent des perspectives inquiétantes sur un monde inconnu, dont la frontière imprécise flirte entre superstition locale, paranormale et spiritisme. Et pour rester dans cet univers de mystère dont va nous parler Lou Aubert tout au long de cette interview, je vous laisse en compagnie de la magnifique et mystérieuse Lorena McKennitt. Elle nous interprétera lors de cette interview le rêve du mystique.
Louis Aubert, bonjour Louis Aubert.
Bonjour.
Alors Louis Aubert, c'est votre nom de plume.
Tout à fait, tout à fait. Un pseudo.
Alors qui vient de quelle origine?
Alors c'est mon nom à l'envers, donc il n'y a déjà plus de secret.
D'accord. Et pourtant, ce que vous faites, c'est assez mystérieux. Donc il y a des secrets dans ce que vous écrivez, moi de ce que j'ai pu lire. On est dans le mystère. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez commencé donc à écrire et à quel moment vous avez commencé à écrire et ce style d'écriture quoi?
Alors tout d'abord, c'est depuis que je suis tout jeune, je suis intéressé par les phénomènes paranormaux. Et donc j'ai vécu aux environs de 18 ans des expériences autour du spiritisme guidées par ma grand-mère qui s'est découverte pour l'occasion médium. Et donc nous avons vécu ensemble des expériences un peu étonnantes qui ont conforté un peu mes croyances sur ces sujets-là. Et donc par nature et par goût, déjà j'étais orienté aussi bien en termes de goût littéraire ou de goût cinématographique vers ces sujets. Et donc quand il a fallu que je raconte, quand je dis il a fallu, c'est que j'avais besoin de raconter cette histoire, j'ai inventé un univers romanesque qui se passe en Bretagne pour le transposer, et ensuite dans ces conditions-là, j'ai créé une famille autour d'un jeune médium breton. Voilà un peu l'origine de ce roman, au moins de ce premier roman, qui s'est transformé ensuite en une trilogie, et plus récemment une tétralogie avec un quatrième épisode qui se positionne après quatre romans, donc la trilogie Erwan Buckelfit, Les Oreilles de Timothée, qui est un roman vraiment à part, et enfin le Erwan Buckelfit 4, qui lui regroupe l'ensemble des personnages des quatre premiers romans. Voilà à peu près le parcours. Et donc le phénomène paranormal, c'est vraiment ma tasse de thé. Donc je ne fais pas de polar, hein. Pour moi ce ne sont pas des polars, ce sont des thrillers, des romans d'aventure avec un caractère ésotérique et surnaturel, et c'est un jeune médium qui enquête et non pas un policier traditionnel, même s'il y en a dans mes histoires.
Alors donc vous avez écrit ces histoires là où le mystère règne, hein, tout le long de ces livres, donc quatre tomes comme vous venez de le dire. Et vous ne faites pas que ça en définitive, hein. Vous êtes aussi dans la poésie. Alors, c'est un autre univers, la poésie.
Tout à fait, mais il se recoupe bien parce que quand on parle d'ésotérisme, on va parler d'alchimie, on va parler de langue des oiseaux, on va parler un peu de sujets comme ça. Et donc ma poésie se reconnaît tout à fait dans ces sujets-là. Et donc j'ai 7 recueils de poésie, donc je suis même plus productif en poésie encore qu'en roman. Et j'aime bien préciser que pour moi, le roman, je compare toujours ça avec l'image. C'est-à-dire que le roman, c'est comme un long métrage au cinéma, alors que la poésie se ressemble plus à la photographie. C'est un instantané de vie. Et donc, je suis assez prolixe et prolifique en poésie, puisque je raconte dans ces poèmes-là, c'est un vrai journal poétique sur plusieurs années, où chaque instant de vie, chaque rencontre, chaque événement peut faire donner naissance à un poème. Et donc, c'est le cas. Donc là, j'ai à peu près 480 poèmes en 7 recueils, que j'ai d'ailleurs, en début d'année, rassemblé en une seule compilation dans un beau livre de luxe. Je me suis permis ce plaisir-là. À couverture rigide, avec jaquette à rabat, etc. Donc ça, c'est pour les fans. Voilà.
Super. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous faire découvrir un de vos poèmes? Alors, je ne sais pas celui... Alors, peut-être dans le... Non, c'est pas dans le dernier. Donc, c'est dans Piqûre de Mystique.
Alors, c'est le dernier, en fait. Oui, c'est ça. C'est celui qui est juste avant la compilation. Hein, voilà. D'accord. Donc, c'est le dernier recueil. Donc, Piqûre de Mystique. Donc, comme vous le voyez, l'ensemble des titres de mes recueils sont toujours liés autour d'un jeu de mots, une langue des oiseaux, un petit clin d'œil. Donc, puisque vous avez le premier qui s'appelait Désespérance, le second, Lame de fond, le troisième, Mythologie, un jeu de mots pour le quatrième avec le mot écrit M-A-U-X. Il n'y a pas d'écrivain en deux mots pour le suivant. Et en fait, il y a eu ensuite Pensée universelle qui était orienté vers le féminin sacré et toutes les femmes. Et en fait, celui dont je vais vous lire un extrait qui s'appelle Piqûre de Mystique.
Est-ce qu'il fait la synthèse un peu? Est-ce qu'il englobe un peu?
Alors, c'est le plus conséquent de mes recueils, celui-là, puisque les recueils en moyenne entre 50 et 70 poèmes. Et celui-ci est beaucoup plus gros. Il y a 115 textes, il fait 170 pages, c'est pas mal pour un recueil de poésie. Voilà. Donc, je vais vous lire un extrait. J'ai choisi le poème qui s'appelle Le peintre des étoiles. Sur tous les tableaux de ma vie que je dévoile, dans mon ciel aspirant la poussière d'étoiles, peintre impressionniste d'émotions et sensations, d'une folle sensibilité au service des passions. J'ai connu pas mal de vides dans mon existence, ces grands trous noirs provenant de l'enfance. Mais je ne demande à personne de les combler, juste à la lunette d'astronomie, les observer. Le firmament, l'espace-temps, son étrange courbure, ne sont rien comparés à tes reins et leurs cambrures. Sache que pour toi, j'ai tant d'amour à revendre, alors ne compte point sur moi pour le reprendre. Soleil sur ma peau, tu restes ma seule ambition, l'amour est fait de douceur et de compréhension, sans cesser donner son cœur, son corps à loisir, alors fais de moi l'instrument de ton plaisir. Tous mes désirs tournent autour de ta planète, satellite en orbite, dressé empli de gamètes. Tu es la source de vie au cœur de ma galaxie, comète inspiratrice, palette aux couleurs nuit. Du fond de l'univers, je veux t'entendre gémir et durant les années-lumière te faire frémir. Sachant brouiller ton regard de mon pinceau habile, je serai le peintre des étoiles, ces lumières graciles.
L'amour vous a inspiré pleinement.
Alors, on retrouve dans, comme dans mes écrits au niveau des romans et dans les poésies, il y a une évolution qui correspond à une évolution spirituelle. Et donc, globalement, quand on parle du jeune Erwan qui est débutant dans le roman, qui est un apprenti médium qui découvre ces sujets-là, on le voit évoluer au fil de la tétralogie et au fil des romans, on voit toute son évolution spirituelle, sa quête initiatique, et il évolue de plus en plus en apprenant et en s'ouvrant à ces univers-là. Il en est de même pour la poésie, c'est-à-dire que j'ai construit les recueils du plus sombre au plus lumineux. On parle souvent, quand on parle de ce qui est spiritualité, qu'il faut sortir de soi le côté obscur, le côté sombre, pour aller vers la lumière. Donc on commence toujours par cette phase qu'on pourrait appeler l'œuvre noire en alchimie. Et donc globalement, dans les poèmes, c'est pareil. Mon premier recueil de poèmes était assez sombre. Il s'appelait « Désespérant, désespérance ». Donc le titre était dans ce sens-là. Et plus on avance, plus on va vers la lumière. Donc la spiritualité rattrape aussi la sensualité. Voilà. Voilà la démarche.
Oui, vous le décrivez bien. Donc c'est cette étape de montrer ses ombres pour pouvoir justement voir la lumière, parce que la lumière elle est derrière l'ombre en définitive.
Exactement. Ouais. Donc si vous avez un peu lu Jung, le psychanalyste, on est tout à fait dans ça, quoi. C'est-à-dire que il faut arriver, avant de vouloir atteindre la lumière, il faut déjà triturer l'œuvre noire et sortir toute l'obscurité qu'on a en nous, tout ce qui est chaos en fait, pour le comprendre, le résoudre et avancer vers soi et vers la réalisation de soi. C'est un peu la quête de mon héros d'ailleurs.
Oui. Voilà. Et je voulais savoir justement, bon c'est votre héros, mais est-ce qu'il y a un petit peu de vous, d'autobiographie dans ces histoires ?
Alors forcément, déjà dans le héros, mais aussi dans d'autres personnages, parce que ça peut être des gens que j'ai rencontrés, que j'ai un peu, je dirais, romancés. C'est des traits de mon caractère qu'on peut retrouver même dans des personnages féminins, et surtout dans le héros qui, je ne vais pas me cacher, est un moi idéalisé. C'est peut-être le héros que j'aurais aimé être. Donc il y a un côté, je dirais, personnage de fiction avec un côté grand héros de cœur et d'aventure. Voilà.
Bah, c'est peut-être aussi votre partie lumière, on pourrait dire.
Voilà, on va dire ça, hein, on va dire ça, voilà.
Si on veut rester dans l'univers mystérieux de vos ouvrages, voilà, parce que je lis là, la lumière montre l'ombre et la vérité, le mystère. Hein. Je lis cette phrase
c'est un proverbe latin médiéval que j'aime bien évoquer quand je veux faire découvrir mon univers. Souvent, donc, je pars d'une double considération. La considération, c'est un univers qui est à la fois poétique et qui est à la fois orienté vers le mystère. Et donc, ces deux sujets me plaisent assez, puisque cette recueil de poésie, dans lequel j'exprime des sentiments, des émotions, mais aussi des choses un peu plus obscures, des choses aussi liées parfois au paranormal et à des sujets un peu autour de la spiritualité. Et parallèlement à ça, le mystère m'a toujours inspiré. Donc je crois que ma patte se détermine autour de ça, ma patte d'auteur. Je suis vraiment amené à toujours continuer et à avoir envie d'écrire sur ces sujets-là. Et donc pour l'instant, j'ai pas envie de... Voilà, je suis pas un homme de polar, par exemple. Je serais pas quelqu'un... Voilà. C'est pas mon truc. Voilà.
Vous donnez ce qui vous anime en définitive.
Alors voilà, je crois que j'écris un peu aussi comme je lisais quand j'étais jeune. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait apprendre en lisant. Hein. Donc, j'essaye de reproduire ça. J'aime bien dire que j'aime que le lecteur soit à la fois diverti, mais qu'il ressorte de là troublé et ait appris quelque chose. Voilà. Donc, j'essaye d'amener les deux. Donc, je fais force de détail dans mes histoires. J'explique l'historique de la Bretagne. On parle pas mal d'archéologie, de certains secrets autour du nombre d'or. On parle alchimie, on parle médiumnité. Mais tout ça noyé dans les aventures et dans l'histoire, parce que c'est quand même des romans d'action où se passe énormément de choses. Et c'est des romans qui sont relativement importants, puisque le plus petit fait qu'à 100 pages. Hein. Donc, et le dernier 630. Donc voilà, on est quand même dans des histoires où il se passe énormément de choses. Voilà.
Alors ce mot, par exemple, médium, quand on dit ce mot-là, bon, je pense que pour certains, c'est un mot qui est un petit peu impressionnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce mot médium? Qu'est-ce que c'est un médium?
Alors un médium, c'est un pont, hein, pour moi. C'est comme un pont. C'est un pont qui relie deux mondes. Hein. Donc on va dire le visible, l'invisible, notre réalité et une autre réalité que j'appellerais immatérielle. Et donc traditionnellement, on va dire que le médium, c'est la personne qui fait justement ce pont, ce lien entre ces deux univers, entre ces deux notions d'énergie. Si on parle, on pourrait parler physique quantique, mais c'est peut-être pas le débat aujourd'hui. Mais globalement, c'est des personnes qui, pour moi, tous les gens qu'on qualifie de clairvoyants ou de médiums, c'est des gens qui, comme tout un chacun, nous avons cinq sens. Hein. Mais pour moi, ces gens-là, ils ont un autre sens. Et on est, voilà. Et donc on est donc dans des facultés qui permettent ni plus ni moins de mettre en avant des capteurs que tout le monde n'a pas. Hein. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, tous ces sujets-là, c'est commun à tous. Pour moi, il y a d'autres sens et certaines personnes sont dotées de ces capteurs-là. Et donc ils sont récepteurs de messages que tout un chacun ne perçoit pas.
Alors, vous avez aussi écrit donc poésie, le mystère, mais aussi vous avez abordé un petit livre qui s'intitule Les aventures de Bou, le petit fantôme. Alors, un livre jeunesse pour les 8-12 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce livre?
Ah oui, je n'avais pas d'ouvrage qui s'adressait à ce jeune public, parce que j'ai toujours écrit côté poésie et côté roman que pour les adultes. Alors, la trilogie, j'ai eu la chance d'avoir des lecteurs un peu plus jeunes, les gens qui sont bons lecteurs à partir de 14-15 ans peuvent la lire, mais c'est vraiment pour les adultes. Mais la trilogie est lisible par des jeunes adultes ou des adolescents. Mm-hmm. Par contre, Les oreilles de Timothée et Erwan Bukowski 4, c'est vraiment, vraiment pour adultes parce qu'il y a des scènes assez expressives en termes de sexe, en termes de violence. Il y a des passages un peu hardcore, donc c'est pas du tout conseillé pour les jeunes. Par contre, donc, du coup, j'ai eu envie de leur faire plaisir, de me faire plaisir moi-même. Je suis toujours resté dans mes sujets et je me suis dit, on va inventer un petit personnage qui va expliquer aux plus jeunes c'est les fantômes et les créatures de la nuit. Donc le but, c'est de vaincre un peu les peurs autour de ces sujets-là. Donc ce petit personnage qui est un petit fantôme présente, donc c'est un ouvrage en trois parties, un petit livret de 80 pages. Il présente d'abord le personnage, ses collègues et confrères de la nuit. On va retrouver les vampires, on va retrouver les zombies, on va retrouver la sorcière, on va retrouver le loup-garou. Il présente un peu donc avec des exemples, par exemple de films qui mettent en scène ce genre de personnage. C'est la première partie de l'ouvrage. Après, une fois que les enfants ont pris connaissance de ces personnages, ils ont déjà peut-être un peu moins peur, parce qu'on leur en a parlé. Oui, oui. Et ensuite, tous ces personnages sont mis en œuvre dans une seconde partie où ce sont des jeux. Alors, il y a des rébus, des devinettes et des petites énigmes où chaque fois, c'est un de ces personnages-là qui est mis en œuvre. Il va y avoir un labyrinthe avec la momie, il va y avoir des jeux avec la sorcière, des jeux de sept erreurs, il y a un peu de tout. Donc, c'est toujours pour manipuler, on va dire, les créatures. Et on termine par une petite nouvelle d'une trentaine de pages qui raconte les aventures debout au pays fantastique. Et pour moi, le pays fantastique, c'est l'Écosse, puisque c'est le pays des fantômes. Et donc Bou va quitter sa France natale pour aller retrouver son tonton en Écosse et lui demander conseil. Et ça, c'est il faut lire l'histoire pour comprendre pourquoi il va lui demander conseil.
D'accord.
Voilà, donc Bou, les aventures debout, B-O-O, mais on dit Bou.
D'accord. Bou, donc, le
petit fantôme.
Le petit fantôme. Donc, c'est un peu un livre pour apprivoiser, on pourrait dire, justement, toutes ces... la sorcière, le loup-garou, je veux dire. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu dans ce but-là?
C'est exactement ça. C'est pour les aider un peu à vaincre leur peur autour de ça. Oui. Et puis, comme moi, c'est vraiment le sujet qui me passionne, les lecteurs de Bou seront peut-être demain, dans 5, 6, 7, 8 ans, les lecteurs de Erwan. Voilà. Et ils progresseront aussi, comme son auteur, sur les sujets autour de la spiritualité. Et de ces sujets un peu, je dirais, en marge. Voilà.
Liobert, merci. Est-ce que donc on peut trouver facilement vos ouvrages?
Alors facilement, je sais pas. Je suis présent dans une vingtaine de salons par an, régional, mais je vais aussi un peu loin puisque je vais à Lorient. Je serai le 13 août à la clôture du Festival interceltique de Lorient, à ce qu'on appelle le Quai du Livre, qui regroupe une cinquantaine d'auteurs et où il y a une table dédicace au centre. Donc la journée du 13, j'y serai présent toute la journée. Donc c'est vraiment le pays d'Erwan. C'est pour ça que je vais là-bas. La trilogie et mes ouvrages ont pas mal de succès dans cette région. Après, je serai présent à Morières au mois d'octobre. Je serai présent à Lucent fin août. Donc là, c'est plutôt dans le Gard. Donc en gros, vous me trouvez, si vous cherchez un peu sur Facebook, salon, ou vous tapez Liobert sur Google.
Liobert
ou Erwan Bukowski, vous allez me trouver mon site et voir un peu dans mon dossier de presse tous les événements auxquels je participe toute l'année. Alors après, vous pouvez me trouver sur Amazon.fr. Tous mes ouvrages sont sur Amazon. Vous pouvez les trouver dans certains Cultura, mais assez peu, parce que là, pour être distribué, c'est un peu compliqué. Pour être dans toutes les librairies, c'est un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à devenir ami avec Erwan Bukowski, le personnage. Lui, il saura vous guider. Et je fais beaucoup d'envois directs de mes ouvrages avec des dédicaces, justement. Ça permet aux gens de passer par moi et donc vous me contactez sur mon site ou sur Facebook, et en devenant ami avec moi, vous pouvez avoir rapidement vos ouvrages dédicacé.
Merci Liobert.
Au revoir.
écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Le rêve du mystique de Lorena McKennitt, tiré de son album Le masque et le miroir, qui est son 5e album. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Elle sera en rediffusion le mercredi 28 juin sur le 102.2, toujours à la même heure, c'est-à-dire 20h à 21h. Vous pourrez aussi la retrouver en podcast sur notre page Facebook ou sur notre site web www.rtvfm.net. Bonnes vacances d'été et rendez-vous en octobre pour une prochaine émission Autour du livre.